Chapitre 48. Emma rentra à la maison avec des sensations bien différentes de celles qu'elle avait quand elle en était sortie. La seule espérance qu'elle avait alors était de soulager un peu son chagrin par la promenade et les beautés que le sol lui offrirait après la tempête. Maintenant, elle sentait l'excès du bonheur, bonheur qu'elle croyait devoir augmenter lorsque le désordre où il avait jeté ses sens serait diminué. Ils prirent du thé autour de la même table où ils en avaient pris ensemble très souvent. Combien de fois n'avait-elle pas observé les mêmes plantes, les mêmes fleurs dans le parterre et les jardins? Combien de fois n'avait-elle pas admiré les beautés du coucher du soleil? Mais jamais, avec les mêmes yeux, ses sensations étaient tout à fait différentes. Elle eut toute la peine du monde de prendre sur elle de faire les honneurs de la maison, ou d'avoir pour son père les attentions qu'elle lui prodiguait ordinairement. Le pauvre M. Woodhouse n'avait pas le moindre soupçon du complot que formait contre lui l'homme qu'il recevait si cordialement et auquel il demandait avec tant d'intérêt s'il ne s'était pas enrhumé en faisant à cheval, par une pluie horrible, le chemin de Londres à Donwell. S'il avait pu lire dans son cœur, il se fût moins inquiété de ses poumons. Mais sans le moindre soupçon du malheur qui le menaçait, sans s'apercevoir le moins du monde qu'il y eût rien d'extraordinaire dans les regards ni dans les manières de M. Knightley et de sa fille, il leur fit gaiement part de toutes les nouvelles qu'il avait apprises par M. Perry. Il parla longtemps et avec satisfaction, n'ayant pas la moindre idée de ce qu'ils auraient pu lui apprendre, en retour des nouvelles qu'il venait de leur donner. Tant que M. Knightley resta à Hartfield, la fièvre d'Emma continua. Mais, après son départ, elle commença à décliner, elle devint plus tranquille, et dans le cours de la nuit blanche qu'elle passa, comme de juste, elle trouva un ou deux obstacles qui lui firent sentir qu'il n'y avait pas de bonheur parfait, son père et Henriette. Elle ne put, lorsqu'elle fut seule, ne pas faire attention à ce que les prétentions de ces deux personnes sur elle exigeaient. Pour les contenter tous les deux, comment s'y prendrait-elle ? C'était là la question. Quant à son père, elle était facile à résoudre. Elle ne savait pas là-dessus les intentions de M. Knightley. Mais, après avoir consulté son cœur, elle se promit de la manière la plus solennelle de ne jamais quitter son père. Elle versa même des larmes amères d'avoir pensé à la possibilité d'agir autrement. Tant qu'il vivrait, M. Knightley en prendrait l'engagement, et elle se flattait que le danger de la perdre n'existant pas, ce serait une consolation de plus pour son père que de la voir à la maison. Mais quant à ce qu'elle pouvait faire pour Henriette, la solution de la question était plus difficile. Comment lui épargner d'inutiles chagrins? Comment lui donner une compensation? Comment enfin ferait-elle pour ne pas s'attirer sa haine? Ces réflexions l'occupèrent longtemps. Elle repassa de nouveau dans son esprit la folie de la conduite qu'elle avait tenue avec sa pauvre petite amie, se fit tous les reproches qu'elle méritait. Elle prit enfin le parti qui lui parut le plus sage. C'était d'abord de continuer à ne pas la voir à Hartfield et de lui communiquer par lettre ce qui était nécessaire qu'elle sût, et ensuite de tâcher de l'éloigner pour quelque temps d'Highbury. Elle crut qu'il serait possible de l'envoyer à Londres chez sa sœur. Isabelle l'avait prise en amitié et serait enchantée de la voir près d'elle. Elle connaissait trop Henriette pour ne pas être persuadée qu'elle serait enchantée de passer quelques semaines à Londres, où la nouveauté des rues, des maisons, des magasins devait nécessairement captiver son attention et lui procurer de l'amusement. Au moins c'était lui donner une preuve d'attention et d'amitié, une séparation pour le présent et reculer le mal qui pourrait arriver d'une rencontre subite. Elle se leva de grand matin, écrivit sa lettre à Henriette, et cette occupation la rendit si triste et si sérieuse qu'il était temps que M. Knightley arrivât pour déjeuner avec elle, et elle eut besoin d'une conversation d'une demi-heure sur le même terrain et sur le même sujet après le déjeuner pour lui rendre le bonheur dont elle avait joui la veille. Il n'y avait pas longtemps qu'il était parti qu'elle reçut de Randalls une lettre très volumineuse. Elle n'avait aucune inclination de s'occuper d'autre chose ni d'autre personne que de M. Knightley. Si cette lettre fût arrivée 24 heures plus tôt, elle lui aurait causé beaucoup de plaisir. mais à présent, elle regrettait de perdre son temps à la lire. Elle avait autre chose à penser qu'à M. Frank Churchill, avec lequel elle était en paix. Elle ne croyait pas d'ailleurs pouvoir le comprendre. Cependant, il fallait la parcourir. Elle ouvrit le paquet, vit qu'elle ne s'était pas trompée. Un billet de Mme Weston servait d'introduction à la lettre de Frank Churchill à sa belle-mère. « J'ai le plus grand plaisir, ma chère Emma, à vous envoyer l'incluse. Je sais que vous lui rendrez la justice qu'elle mérite et je n'ai aucun doute de l'effet qu'elle fera sur vous. Je me flatte qu'à l'avenir, nous serons à peu près d'accord sur la personne qui l'a écrite. Mais je ne veux pas vous ennuyer par une longue préface. Nous nous portons tous très bien. Cette lettre m'a guéri des attaques de nerfs auxquelles j'étais sujette depuis quelque temps. Je n'ai pas été contente de votre santé mardi matin, mais il faisait mauvais temps, et quoique vous m'ayez souvent dit que le temps, quel qu'il fût, ne vous faisait rien, néanmoins, je suis persuadée qu'un vent de nord-est affecte plus ou moins tout le monde. J'ai été fort inquiète de l'effet que la tempête a dû avoir sur M. Woodhouse, mais j'ai eu le plaisir d'apprendre par M. Perry qu'il n'en avait pas été incommodé. Pour toujours, votre A.W. À Madame Weston. Windsor, juillet. Ma chère dame, si j'ai pu me faire comprendre hier, cette lettre doit être attendue aujourd'hui. Mais qu'elle le soit ou non, j'espère qu'elle sera lue avec candeur et indulgence. Vous êtes d'une bonté extrême et il faut que vous le soyez pour me pardonner une partie de la conduite que j'ai tenue. Mais j'ai reçu le pardon de la personne qui avait, plus qu'aucune autre, le droit de s'en plaindre. Mon courage s'augmente à mesure que j'écris. Il est difficile aux gens heureux d'être humbles. J'ai déjà réussi à obtenir le pardon de deux personnes. Ainsi, je pourrais courir les risques de me croire trop sûr du vôtre, ainsi que celui de ceux de vos amis que j'aurais pu offenser. Je vous prie tous de vous représenter la situation dans laquelle j'étais lorsque je suis arrivé de Randalls la première fois. J'avais à garder le secret que je ne voulais révéler pour quoi que ce fût au monde. Voilà le fait. Quant au droit que j'avais de me mettre dans le cas d'être obligé de garder un pareil secret, c'est une autre question. Je ne la discuterai pas ici. Pour la tentation qui m'a porté à croire que j'avais ce droit, je renvoie les chicaneurs à une maison de briques dont les fenêtres basses sont à châssis et celles d'en haut de simples fenêtres à Highbury. Je ne pouvais pas lui faire la cour ouvertement. Ma situation à Inscombe est trop connue pour que je sois obligé de la décrire et j'eus le bonheur de l'engager, avant notre départ de Weymouth, à contracter un engagement secret avec moi. C'est par pure charité que cette femme céleste s'attacha à moi. Sans cela, je serais certainement devenu fou. Mais vous me demanderez peut-être quel espoir nous avions. Je vous répondrai que nous attendions tout du temps, du hasard, des circonstances, de notre persévérance, de la santé, de la maladie, etc., etc., etc. Je voyais tout en beau, et le plus grand des biens à mes yeux était de m'assurer sa foi et ses affections. Si vous avez besoin, ma chère dame, que je vous donne d'autres explications, j'aurai l'honneur de vous dire que, digne fils de mon père, votre mari, j'ai hérité de lui l'heureuse disposition de croire que tout ira au mieux, ce qui est préférable à posséder quelques maisons ou quelques terres de plus. Voyez-moi donc, ainsi circonstancié, arrivé à Highbury et Randalls. Ici, je me reconnais coupable, car j'aurais pu y venir beaucoup plus tôt. Vous voudrez bien avoir la bonté de vous ressouvenir que je ne suis arrivé qu'après que Mademoiselle Jeanne Fairfax. Et comme vous êtes la personne que j'ai offensée la première, vous m'accorderez sur le champ mon pardon. Mais il faut que je mérite celui de mon père en lui faisant observer que plus j'ai attendu à venir à la maison, plus j'ai été privé du bonheur de vous connaître. Ma conduite, pendant la première semaine que j'ai passée à Randalls, ne mérite, j'ose l'espérer, aucun reproche, à une exception près. Je viens maintenant au point principal, le point le plus important, puisque j'étais chez vous. Je vous dois des explications. C'est avec le plus grand respect, avec la plus sincère amitié, que je nomme Mademoiselle Woodhouse. Mon père pensera peut-être que je devrais ajouter le mot « humilité ». Quelques paroles qu'il me dit hier me firent entendre ce qu'il pensait au sujet de ma conduite. Je confesse avoir mérité sa censure. J'ai outrepassé mon plan plus que je ne devais avec Mademoiselle Woodhouse dans l'intention de cacher le plus possible le secret qu'il m'importait tant de ne pas découvrir. J'ai plus profité que je ne devais de l'intimité qui m'était accordée. Je ne saurais nier que Mademoiselle Woodhouse ne parut être l'objet que j'avais en vue. Mais je suis certain que vous me croirez lorsque je vous assurerai, comme je fais ici, que je ne me serais pas tant avancé si je n'avais pas eu la conviction intime de son indifférence pour moi. Quoique charmante et infiniment aimable, je n'ai jamais cru Mademoiselle Woodhouse susceptible de s'attacher à qui que ce fût. Et j'étais aussi porté à croire qu'à désirer qu'elle ne sentirait jamais rien pour moi. Elle recevait mes attentions avec une gaieté amicale, franche et aisée, qui me convenait beaucoup. Il semblait que nous nous entendions parfaitement. Par nos relations respectives, je lui devais des soins, personne ne peut le nier. J'ignore si Mademoiselle Woodhouse, avant l'expiration de la première quinzaine, me comprit ou non. Lorsque je fus prendre congé d'elle, je me souviens d'avoir été sur le point de lui avouer la vérité. Je crus m'apercevoir alors qu'elle avait des soupçons. Mais je suis sûr que, par la suite, elle m'aura deviné, du moins en partie. Elle n'aura pas eu connaissance du tout, mais assez pour savoir à quoi s'en tenir, car elle est douée d'une grande pénétration. Je n'en doute nullement. Vous trouverez que, quand notre secret sera divulgué, Mademoiselle Woodhouse sera beaucoup moins surprise qu'aucun autre de mes amis. Elle m'a souvent fait entendre qu'elle me soupçonnait de l'attachement pour Jeanne. Je me souviens qu'au bal, elle me dit que je devais avoir de la reconnaissance pour Madame Elton à cause des égards qu'elle avait pour Mademoiselle Fairfax. Je me flatte que cette apologie de ma conduite atténuera les fautes que vous me reprochez ainsi que mon père. Vous me regardiez comme ayant grièvement péché envers Emma Woodhouse. Et cependant, j'étais innocent. Procurez-moi, je vous en supplie, quand le temps sera venu, le pardon de la susdite Emma Woodhouse, pour laquelle j'ai tant d'affection fraternelle et tant de considération que je désire de tout mon cœur la voir aussi fortement éprise que moi d'un amant digne d'elle. Vous avez maintenant la clé des choses étranges que j'ai pu dire et faire pendant la première quinzaine. Mon cœur était tout entier à Highbury. Je devais y transporter mon corps le plus souvent possible, mais je devais éviter les soupçons. Si vous trouvez quelque chose de répréhensible dans ma conduite, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Quant au pianoforte dont on a tant parlé, je crois devoir simplement observer que l'envoi en était fait sans que Mademoiselle Fairfax en ait eu la moindre connaissance, autrement elle ne m'eût jamais permis de lui faire ce présent. Je ne puis, ma chère dame, rendre assez de justice à Mademoiselle Fairfax pour son extrême délicatesse pendant tout le temps de notre engagement. J'espère que dans peu vous la connaîtrez parfaitement. Il m'est de toute impossibilité de vous dépeindre ce qu'elle est. C'est à elle que vous devez vous adresser. Ce n'est pas parce qu'elle vous dira que vous pouvez espérer de parvenir à ce but. Non, il n'a jamais existé de créature au monde qui cache son mérite avec plus de soin qu'elle. Elle prend autant de peine à voiler ses bonnes qualités que d'autres en prennent à exposer leurs défauts. Depuis que j'ai commencé cette lettre, que je ne croyais pas devoir être si longue, j'ai eu de ses nouvelles. Elle me dit que sa santé est rétablie. Mais comme elle ne se plaint jamais, je ne puis pas trop m'en rapporter à ce qu'elle m'en écrit. Je désire savoir ce que vous en pensez. Je sais que vous vous proposez de l'aller voir. Elle craint votre visite. Peut-être, au moment où j'écris, est-elle déjà faite. Ayez la bonté de me le faire savoir le plus tôt qu'il vous sera possible. Je suis impatient d'en connaître toutes les particularités. Souvenez-vous que je n'ai pu passer que quelques minutes à Randalls et combien j'étais agité, torturé. Je ne suis guère mieux à présent. Je suis dans un état qui approche de la folie. Quand je pense à la bonté infinie de mon oncle, je suis fou de joie. Cet état de bonheur redouble quand je songe à la bonté, à l'excellence de Jeanne. Mais lorsque je me rappelle tous les chagrins que je lui ai causés, combien j'étais indigne de pardon, je suis fou de rage contre moi-même. Oh, si je pouvais la voir un seul instant ! Mais je n'ose pas le proposer. Mon oncle a eu trop de bonté pour moi pour que je me permette d'en abuser. Je dois encore ajouter quelque chose à cette lettre. Vous ne savez pas ce qu'il est nécessaire que vous sachiez. J'étais trop troublée hier pour vous donner des détails suivis. Mais le dénouement subi et à contretemps de cette affaire mérite une explication, car, quoique l'événement du 28 du mois dernier m'eût ouvert une heureuse perspective, comme vous l'imaginez bien, je me serais bien gardée de prendre des mesures prématurées si des circonstances très particulières ne m'avaient forcée à ne pas perdre un instant. J'aurais rougi de ma précipitation et elle eût ressenti mes scrupules avec une sensibilité exquise. Mais je n'avais pas de choix. L'engagement précipité qu'elle avait pris avec cette femme... Ici, ma chère dame, la plume m'est tombée de la main. Il m'a été impossible de poursuivre. J'ai été faire un tour à la campagne pour me remettre. Maintenant, je le suis assez pour terminer cette lettre comme je le dois. Je suis forcée de rappeler des souvenirs qui me causent une peine infinie. Je me suis honteusement conduit. Et je reconnais ici que les airs que je me donnais avec Mlle Woodhouse, ne plaisant pas à Mlle Fairfax, j'étais grandement blâmable en les continuant. Elle les désapprouvait, cela devait me suffire. Elle ne put admettre pour excuse la nécessité de cacher notre secret. Elle prit de l'humeur, je la crus déraisonnable. Elle me parut en mille occasions beaucoup trop scrupuleuse et trop circonspecte. Je la trouvai froide même. Mais elle avait cependant raison. Si j'avais suivi ses conseils, si je m'étais conformé à ses désirs, je me serais épargné le plus grand malheur qui ait jamais pu m'arriver. Nous nous querellâmes. Vous vous souvenez de la matinée que nous passâmes à Donwell? C'est là que se cumulèrent tous nos désagréments mutuels, c'est là qu'ils éclatèrent. J'arrivai tard, je la rencontrai en chemin, je voulus l'accompagner, elle me refusa. Elle était seule et je la crus déraisonnable de ne pas accepter mon bras. Je ne pus rien gagner sur elle. Maintenant, je trouve qu'elle avait parfaitement raison. Tandis que, pour assurer le secret de nos engagements, je m'adressais d'une manière indiscrète à une autre personne, devait-elle, le moment d'après, consentir à une proposition qui rendait toute précaution inutile? Si l'on nous eût vu marcher ensemble de Donwell à Highbury, on aurait soupçonné la vérité. J'eus néanmoins la folie de me fâcher de ce refus. Je doutais de son affection. J'en doutais bien plus encore le lendemain à Box Hill, où, indigné de ma conduite envers elle, de l'abandon insolent et marqué que je lui témoignais et de l'extrême attention que je paraissais avoir pour Mlle Woodhouse, elle exprima son ressentiment en des termes que je compris parfaitement. Enfin, ma chère dame, tout le tort dans cette querelle était de mon côté, et Mlle Fairfax n'avait pas le moindre reproche à se faire. Je m'en retournai à Richmond le soir même, quoique je eusse pu rester avec vous jusqu'au lendemain matin. Mais je voulais continuer à être en colère contre elle. Dès lors même, je n'étais pas assez insensé pour ne pas penser à me réconcilier un jour avec elle. Mais je me croyais offensé par la froideur qu'elle s'était permise de me témoigner, et je partis, bien résolu qu'elle ferait les avances de notre réconciliation. Je me suis toujours félicité que vous ne soyez pas venu à Box Hill. Si vous aviez été témoin de la conduite que j'y ai tenue, je suis persuadé que vous auriez pensé mal de moi toute la vie. L'effet qu'elle produisit sur elle se voit par la résolution qu'elle prit sur le champ d'accepter, lorsqu'elle sut que j'avais quitté Randalls, l'offre de cette officieuse Elton, qui, par parenthèse, m'a, par sa conduite envers elle, rempli d'indignation et de haine. Je dois, beaucoup moins qu'un autre, m'élever contre ceux qui pensent qu'on doit user d'indulgence dont j'ai eu si besoin moi-même. Autrement, je protesterai contre celle dont on a usé envers cette femme. Jeanne, tout court, vous aurez la bonté d'observer que je n'ai jamais pris la liberté de l'appeler ainsi, même avec vous. Figurez-vous donc ce que j'ai souffert de l'entendre répéter si souvent par les Elton, avec l'insolence d'une supériorité qui n'a d'existence que dans leur imagination. Prenez patience, je vous prie, j'ai bientôt fini. Elle accepta donc ses offres, dans la ferme intention de rompre pour toujours avec moi. Elle m'écrivit le jour suivant que nous ne nous reverrions plus. Elle sentait que notre engagement était une source de repentir et de malheur pour tous deux, et qu'elle le rompait. Cette lettre me parvint au moment de la mort de ma pauvre tante. Une heure après avoir reçu sa lettre, ma réponse était faite. Mais par le trouble dans lequel j'étais, la multiplicité des affaires dont j'étais chargée, cette réponse, au lieu d'avoir été envoyée avec les autres lettres, resta enfermée dans mon bureau. Et, content d'en avoir assez dit, quoiqu'en peu de mots, pour la satisfaire, je restai tranquille. Je fus surpris de n'avoir pas de ses nouvelles aussi promptement que j'en attendais, mais je l'excusai. J'étais d'ailleurs trop occupé et trop heureux par l'espoir que j'avais pour me choquer si aisément. Nous partîmes pour Windsor, et 2 jours après, je reçus un paquet d'elle. Il ne contenait que mes lettres. Il me parvint en même temps une lettre par la poste par laquelle elle exprimait sa surprise de ce que je n'avais rien répondu à sa dernière. Elle ajoutait que le silence en pareil cas n'admettait pas 2 interprétations et qu'ainsi il était désirable de terminer le plus promptement possible les affaires que nous avions à arranger, qu'elle m'envoyait mes lettres par une occasion sûre et que, si je n'en trouvais pas une dans 8 jours pour lui faire parvenir les siennes à Highbury, je voudrais bien les lui adresser à... Enfin, l'adresse de Madame Smallridge, près Bristol, me sauta aux yeux. Je connaissais le nom, le lieu et tout ce qui s'ensuit. Je vis sur le champ ce qu'elle allait faire. Je reconnus bien là la fermeté de son caractère. Et sa circonspection, à n'en pas parler dans sa première lettre, peignait bien son extrême délicatesse. Pour tout au monde, elle ne se serait pas abaissée à me faire des reproches. Figurez-vous le coup terrible que je reçus. Figurez-vous combien je m'en portais contre la poste jusqu'à ce que j'eusse découvert mon erreur. Mais que devais-je faire? Une seule chose, parler à mon oncle. Sans son approbation, je ne pouvais plus espérer d'être écouté. Je parlai. Les circonstances étaient en ma faveur. L'événement de la mort de sa femme avait adouci sa fierté, et il se réconcilia et me donna son consentement bien plus tôt que je n'aurais osé l'espérer. Et enfin, ce brave homme dit, avec un soupir, qu'il me souhaitait autant de bonheur dans l'état conjugal qu'il y en avait trouvé. Je sentais que le mien serait bien différent. Êtes-vous disposé à me plaindre pour tout ce que j'ai souffert avant de lui faire l'ouverture de cette affaire, dont mon bonheur, ma vie même, dépendait? Non, réservez votre pitié pour le moment de mon arrivée à Highbury, et que je vis le mal que je lui avais causé. N'ayez de compassion pour moi qu'à l'instant que je contemplais sa figure pâle et défaite. J'arrivai à Highbury au moment du jour où, connaissant l'heure de leur déjeuner, je me flattais de la trouver seule. Je ne me trompais pas. Je réussis parfaitement, non seulement en cela, mais aussi sur le but de mon voyage. J'eus quelques peines à l'apaiser, à regagner ses bonnes grâces, mais j'en vins à bout. Tout est fini. Nous sommes sincèrement réconciliés, elle m'est plus chère, 1000 fois plus chère qu'auparavant, et il est impossible qu'aucun désagrément vienne jamais troubler le bonheur dont nous jouissons. À présent, ma chère dame, je vous laisse en liberté. Je n'ai pu terminer ma lettre plus tôt. Recevez 1000 et 1000 remerciements pour les bontés dont vous m'avez comblée, et 100 000 pour les attentions que votre bon cœur prodiguera à la plus sensible des femmes. Si vous me croyez plus heureux que je ne mérite de l'être, je serai de votre avis. Mademoiselle W. m'appelle l'enfant gâté de la fortune, et elle a raison. En un point, mon bonheur n'est point douteux, puisqu'il m'est permis de me souscrire, votre très obligé et très affectionné fils, F. C. Weston Churchill.